Alors, Hugues, la commune et l'éducation ou l'éducation et la commune?
Eh bien, ni l'un ni l'autre.
Voilà.
Voilà. Toujours est-il que, on vous le disait tout à l'heure, on a eu l'intelligence libertaire de produire les actes avant le colloque, parce qu'on sait que souvent, quand on produit les actes après les colloques, nous n'avons jamais les actes. Voilà. Et comme vous êtes réunis aujourd'hui et qu'on voulait vous faire un quasi-cadeau, ce livre était autrefois à 18 euros et pour le colloque, il n'est qu'à 12 euros. Donc, profitez-en, ça ne se reproduira peut-être pas de sitôt. Voilà, donc, je vais vous entretenir d'un propos qui me tient à cœur. C'est la question de l'éducation durant la commune, nous, la commune et l'éducation. Et là encore, je vais essayer aussi quand même de faire un lien très direct entre cette commune et l'éducation et ce que deviendra plus tard toutes les conceptions que les libertaires ont pu développer ultérieurement, soit avec Faure, soit avec Robin, soit avec Ferrer, soit avec d'autres, voire même dans le système public avec les écoles Freinet, voire le lycée autogéré de Paris, qui d'une certaine manière poursuit un peu cette réflexion que nous avons engagée il y a maintenant plus de 100 ans. Voilà. Sachant que, effectivement, vous allez voir dans mon propos qu'il y a des liens très directs entre ce que les communards souhaitaient faire en matière d'éducation et ce que les libertaires ont théorisé ultérieurement, sachant qu'il ne faut pas s'imaginer non plus que ceux qui furent à la manœuvre durant la Commune de Paris relevaient tous du mouvement libertaire. C'est-à-dire qu'il y a une vraie appétence, une vraie dynamique éducative. Les libertaires en étaient, mais ils n'étaient pas forcément les seuls. Et on verra d'ailleurs que l'un des animateurs de la commission de l'enseignement de la Commune de Paris était un blanquiste, donc pas forcément très proche de nous, au moins aujourd'hui, même s'il le fut à l'époque. Voilà. Alors donc, on a un certain nombre de gens qui se sont intéressés à l'éducation, mais comme le disait Hélène tout à l'heure par rapport au mouvement des femmes, il y a de l'antériorité, c'est-à-dire tout ne naît pas de manière spontanée durant la Commune de Paris. Et en effet, dès 1864, donc l'année de la création de la Première Internationale, il y a un personnage dont vous avez peut-être entendu parler, qui est lui-même membre de l'association, qui s'appelle Victor Considérant, et qui va reprendre très largement ce que Fourier avait pu penser en matière d'éducation. Sachant que la pensée fourieriste est un petit peu difficile à cerner quelquefois, et Victor Considérant l'a un peu remise dans un monde plus rationnel et moins poétique que celui de Fourier. Et donc, Victor Considérant rédige en 1864 une théorie de l'éducation naturelle et attrayante dédiée aux mères en 1864. Et on verra que la question des mères et de l'éducation, d'ailleurs, se reposera durant la commune elle-même. Voilà, éducation naturelle, et donc plus forcément contrainte, et attrayante, ce qui est tout à fait importante, et peut-être que la dimension attrayante pourrait être reprise aujourd'hui dans le système éducatif que nous connaissons, qui n'est pas toujours si attrayant que ça. Voilà. Sachant qu'avant même Victor Considérant, d'autres s'y étaient frottés, toujours dans la lignée de Fourier, et en particulier l'Association internationale des travailleurs, qui dans ses motions et résolutions reprendra la question de l'éducation intégrale, qui avait très largement été portée dès les années 1840 par Pierre-Joseph Proudhon, qui là aussi a écrit un certain nombre de choses sur l'éducation, et en particulier qui a essayé de promouvoir cette éducation intégrale que je définirai d'ici quelques instants. Et toujours dans ce courant révolutionnaire pré-Commune de Paris, il y a aussi un texte tout à fait fondamental où on retrouve beaucoup de choses que nous retrouverons dans les années 70-71. C'est ce que firent et ce que publièrent un membre de l'Internationale, là aussi qui sera un communard tout à fait important, qui est Gustave Lefrançais, donc qui a écrit un gros ouvrage sur la Commune, qui avait rédigé avec Pauline Roland, qui était une militante féministe de l'époque et un dénommé Perrault, qu'on a un peu perdu de vue. Eh bien, il publie en 1849 un ouvrage qui s'appelle « Programme d'enseignement de l'Association fraternelle des instituteurs et professeurs socialistes ». Et dès 1949, la répression leur tombe dessus. Lui sera écarté de l'éducation, si je puis dire, qui n'était pas encore national. Et donc la répression leur tombe dessus. Et devinez pourquoi ? Outrage à la morale, outrage à la religion, outrage à la famille, outrage à la propriété. Donc tout un programme, n'est-ce pas ? Voilà. Et donc Jacques Rougerie, l'historien qui a été évoqué, je crois, par Jean-Louis Robert et peut-être par Francis tout à l'heure, lui aussi a pointé un certain nombre de choses qui précèdent la Commune de Paris. Et il nous dit, par exemple, qu'en 1870, le 8 octobre, pour être précis, dans un journal qui s'appelle « La patrie en danger », eh bien, les rédacteurs de cette patrie en danger souhaitent dès le 8 avril 1870, une instruction gratuite, laïque et obligatoire de l'enfant du peuple. Donc on sent bien que ce mouvement éducationniste, comme on dit aujourd'hui, est très largement en débat chez les révolutionnaires. Encore antérieurement, on s'était aperçu, là je fais un clin d'œil à notre ami Rab qui interviendra tout à l'heure sur Lyon, effectivement, eh bien les Canuts aussi, dans l'insurrection lyonnaise qu'il évoquera en 1870, qui précède l'insurrection parisienne, eh bien, les Canuts lyonnais et les ouvriers lyonnais eh bien, publient un texte où ils disent « L'enseignement donné par les congrégations religieuses était contraire à l'esprit républicain. » Et ils arrêtèrent en ce sens deux points, je cite « Nulle subvention n'est accordée dès ce jour par la commune aux institutions religieuses de l'un ou l'autre sexe, et que les locaux appartenant à la commune et servant actuellement aux écoles religieuses et aux salles d'asile seront désormais affectés aux écoles et à des salles d'asile dirigées par des personnes laïques. » Donc là encore, on voit que le mouvement parisien va développer un certain nombre de choses, mais que dans d'autres lieux et dans d'autres mouvements insurrectionnels, à Lyon ou ailleurs, la question de l'éducation se pose. Pour vous brosser un petit peu le tableau de l'éducation avant la Commune, les chiffres sont tout à fait affolants. La situation scolaire des enfants est tout à fait détestable. En effet, si on regarde les textes de l'époque, on s'aperçoit que seuls 27% des enfants d'âge scolaire à Paris étaient inscrits dans une école communale, semi-publique ou publique. 33% fréquentaient les écoles j'ai du mal à le dire, ça, c'est plus fort que moi. Je n'ai pas été éduqué dans cette affaire-là. Congrégationniste, voilà, donc les écoles de curés, voilà, ça ira bien plus vite comme ça. Voilà, et que 32% des enfants n'allaient dans aucune école. Dans tous les, quelque chose, voilà. Sachant quand même que les 27% qui sont inscrits dans les écoles dites communales et les 33% qui fréquentent plus ou moins les écoles congrégationnistes souvent sont inscrits en début d'année et ne vont jamais à la fin de l'année, puisque dans bien des milieux ouvriers, le salaire de l'enfant est un salaire d'appoint qui va permettre à la famille de vivre. Donc très rapidement, ils abandonnent l'école. Sachant qu'un certain nombre d'enfants à l'époque travaillent 15 heures par jour, quelquefois comme à Lyon, à quatre pattes, sous les métiers jacquards. Hein, donc des conditions pour apprendre qui sont extrêmement difficiles. La Commune va donc se saisir extrêmement rapidement de la question de l'éducation et dès sa deuxième séance, vous voyez que ça ne tarde pas, eh bien, on va mettre en place une commission de l'enseignement, laquelle commission de l'enseignement est confiée en matière d'animation au blanquiste Édouard Vaillant. Alors Édouard Vaillant, qui est un blanquiste, donc quand même plutôt quelqu'un qui est un jacobin, les blanquistes, c'est pas autre chose comme ça, eh bien, va malgré tout laisser les choses nettes, va entendre ce qui se dit dans la commission de l'enseignement et va aussi essayer de promouvoir ce qui va se passer de manière extrêmement intéressante à Paris, c'est-à-dire que dans chaque arrondissement où les communards sont majoritaires, ils vont engager des initiatives en direction de l'éducation, que ce soit celle des tout-petits, que ce soit celle du primaire, voire l'éducation des adultes. Donc, Vaillant fait ce qu'il peut. Et dans cette commission Vaillant, on va retrouver des gens que vous connaissez peut-être. Alors, certains moins, d'autres davantage. On va y trouver Jules Vallès, hein, qui écrira plus tard « L'enfant, l'insurgé et le bachelier ». Donc, il parle de la façon dont il a été éduqué et maltraité par l'éducation. On va y retrouver Courbet, hein, qui sera l'animateur de l'association des artistes ultérieurement, et donc qui a aussi un regard sur l'éducation, qui est donc un ami de Pierre-Joseph Proudhon. On y trouve un républicain radical, Jules Miot, un instituteur, Augustin Verdure, et quelqu'un que vous connaissez nécessairement, le poète et chansonnier Jean-Baptiste Clément, auteur de Le temps des cerises, bien sûr, et de La semaine sanglante, un petit peu après, malheureusement. Voilà. Et puis il y a un internationaliste, Antoine Mathieu Dumay. Voilà. Donc, révolution pédagogique qui est tout à fait en cours, et cette commission de l'enseignement, plutôt que de diriger ce qui doit être fait, va servir de réceptacle à toutes les initiatives populaires qui vont être prises ici ou là dans les arrondissements parisiens. Reste que, dans cette affaire-là, on va avoir un petit groupe particulièrement actif en matière d'éducation, qui va créer la Société de l'éducation nouvelle. Et cette Société de l'éducation nouvelle va produire un texte qui est tout à fait fondamental à cet effet, et dans lequel il est dit en matière de résolution pratique, de manière à opérer dans les lois, les méthodes et les programmes de l'enseignement, un certain nombre de transformations. Alors, on verra aussi que, autant les lois, si je puis dire, ont été transformées, école laïque et obligatoire, mais au niveau des programmes et des méthodes, on verra que la commune n'a pas eu le temps de faire beaucoup de choses du point de vue de l'évolution pédagogique qui était souhaitée sans doute par un certain nombre d'entre eux. Mais le temps leur a manqué. Ce que dit cette Société pour l'éducation nouvelle, dans un texte que je vais évoquer, ils nous disent, et je crois que c'est assez largement porté par l'ensemble du mouvement ouvrier hexagonal, mais on pourrait dire la même chose pour les Suisses, les Belges ou éventuellement les Allemands, ils nous disent, la question de l'éducation, laquelle n'est exclusive d'aucune autre, est la question mère qui embrasse et domine toutes les questions politiques et sociales. Et sans la solution de laquelle il ne sera jamais fait de réforme sérieuse et durable. Pour les communards comme pour d'autres, l'éducation est l'un des leviers de la révolution sociale, même si ce n'est pas le seul, avec la lutte économique, y participe très très largement. Voilà, donc les représentants de cette société soulignent l'importance de l'éducation et ils affirment ce que les libertaires partagent toujours d'ailleurs, c'est pas de révolution pérenne, pas de révolution sociale sans transformation radicale de l'éducation. De plus, sans doute inspiré par Proudhon, et on a vu avec Jean-Louis Robert combien Proudhon était important dans l'organisation communarde, eh bien, ils vont considérer, et ça, Jean-Louis nous l'a dit un petit peu à la marche ce matin, ils considèrent que la commune va affirmer que l'enseignement est organisé sur la base de l'autonomie absolue accordée à chaque commune, profitant de sa liberté d'action, et elle se réserve en cela la possibilité de développer et de propager l'instruction. Donc, le principe fédéraliste qui a été évoqué en disant chaque commune a des capacités d'organisation, avec le débat qu'a évoqué Jean-Louis en disant mais si on laisse les communes trop de liberté, peut-être qu'il n'y aura que des écoles religieuses, ce qui était une vraie question. Eh bien, le principe de la fédération et du fédéralisme fonctionne pour l'école comme il fonctionnera pour les autres systèmes. Voilà. Alors, il y a une chose qui m'a étonné dans les travaux que j'ai pu conduire sur cette question. Deux personnages tout à fait importants qu'on a évoqués déjà. Gustave Lefrançais, qui donc rédige ce manifeste avec deux autres personnes en 1849, ne participe pas à la commission d'éducation et apparemment absolument muet sur ces questions-là. Et Louise Michel, qui elle-même était institutrice, qui était réputée avoir plutôt mis en place des pédagogies qu'on pourrait considérer comme actives avec les enfants dont elle s'était occupée, ne participe pas au travail d'éducation en matière de la commune. Alors, De Mangeais, qui est un grand historien du mouvement social, qui a toujours refusé de réussir dans le cadre universitaire, qui est resté instituteur toute sa vie, dit quelque part qu'elle aurait, malgré son engagement dans les combats, fait parvenir à la commune un plan d'éducation où, effectivement, elle proposait une éducation sans punition ni récompense. Et on verrait, si je parlais ailleurs, que la question des punitions, des récompenses, c'est aussi ce qu'on prendra aussi bien à la ruche de Sébastien Faure que dans les écoles rationalistes de Francisco Ferrer. Donc une même pensée, un même mouvement vers une éducation de la liberté par la liberté, pour reprendre un titre célèbre dont on vous parlera peut-être tout à l'heure. Voilà. Donc, grande diversité des approches en matière d'éducation. Néanmoins, la commune est un mouvement extrêmement tolérant. Alors, sans doute parce qu'il regrette un certain nombre de dérapages qu'on a pu connaître dans les années 1792 sur ce que d'aucuns appellent la terreur, qui a été une terreur toute relative par rapport à la terreur blanche d'avant et d'après. Ben, toujours est-il qu'ils vont demander la mise en place d'une école laïque gratuite. Néanmoins, ils vont laisser le droit de croyance aux individus. La seule chose qu'ils opposeront, c'est certes, la croyance est quelque chose qui relève de la position individuelle, mais il n'est pas question que dans les écoles de la commune, éventuellement dans les écoles de la République, un quelque signe religieux puisse apparaître. Donc liberté de conscience avec une garantie que les enfants ne soient pas maltraités par des gens en soutane ou en coiffe, je ne sais pas comment ça s'appelait. Voilà. Paul Chauvet, qui a été un des nôtres à la Fédération anarchiste et qui écrivait dans La Rue, donc la revue de l'époque, fait un certain nombre de constats tout à fait intéressants, puisqu'il a écrit un texte sur la question de l'éducation durant la Commune. Et il écrivait « L'école se comportait comme l'annexe de l'église, même quand elle ne se situait pas dans un des bâtiments de la paroisse. En plus, elle était payante pour tous, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais pour beaucoup, et donc seulement ouverte à la fréquentation volontaire des élèves. Il faut préciser toutefois que les curés avaient institué un système de bourses distribuées par l'évêché qui leur permettait d'écrémer quelques intelligences brillantes qui surgissaient parfois des milieux pauvres. Les heureux bénéficiaires étaient ainsi récupérés par la religion et intégrés au système. Et ça, on l'a connu aussi sous la République. Vous savez, l'élitisme républicain qui vise à ce que des jeunes gens, quelquefois, puissent accéder à Sciences Po, à l'ENA, pour intégrer le système et montrer qu'il y a une vraie justice, une vraie égalité scolaire, on est déjà dans cette logique-là dès avant 1870. Donc, rien n'a vraiment changé sous le drapeau bleu-blanc-rouge, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. La commune, toujours dans sa réflexion, va reprendre ce que proposaient les Lyonnais tout à l'heure, et leur revendication sera donc la suppression du budget du culte et la suppression de l'enseignement clérical dans les écoles communales. Ainsi, durant les 72 jours, l'insurrection parisienne va débattre très largement de la question de l'éducation. Il y a de nombreuses motions qui vont nous éclairer dans ce sens-là. Alors, je ne vous les citerai pas toutes, parce que sinon, nous sommes encore là, bien après le concert de Serge Dujarrieu. Néanmoins, pour illustrer cette volonté communarde de supprimer les scories religieuses de l'éducation, les délégués de l'éducation nouvelle demandent d'urgence, au nom de la liberté de conscience, au nom de la justice, que l'instruction religieuse ou dogmatique soit immédiatement et radicalement supprimée pour les deux sexes, dans toutes les écoles, dans tous les établissements dont les frais sont payés par l'impôt. Que ces maisons d'instruction et d'éducation ne contiennent aux places exposées au regard des élèves et du public aucun objet de culte, aucune image religieuse, qu'ils ne soient enseignés ou pratiqués en commun, ni prière, ni dogme, ni rien de ce qui est réservé à la conscience individuelle. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui est fortement affirmé par les communards qui avaient très largement subi dans leur enfance eux-mêmes ces instructions religieuses ou l'effet de la religion dans les familles, qui avaient plutôt tendance à les abrutir qu'à les libérer. On parle aussi, durant la commune, d'une école laïque gratuite et obligatoire. Et là, je pense que sur la question de l'obligation, il faut revoir les choses de manière un petit peu distanciée. À l'époque, de toute façon, il y a une grande appétence pour la connaissance, aussi bien chez les adultes, je l'évoquerai tout à l'heure, que pour les enfants de la classe ouvrière, avec les difficultés que j'ai pu évoquer. Et donc, l'éducation nouvelle, donc dans leur texte, déclare que l'instruction soit obligatoire en ce sens qu'elles deviennent un droit à la portée de tous les enfants, quelle que soit leur position sociale, et un devoir pour les parents ou pour les tuteurs et pour la société. C'est-à-dire que cette obligation scolaire, ce n'est pas le temps, l'obligation scolaire pour les enfants, c'est une possibilité d'aller à l'école pour les enfants, et cette obligation est une obligation sociale, plus que l'obligation de tel ou tel individu face à l'appareil scolaire. D'où l'importance de développer cette école au plus grand nombre. Donc, commune tolérante, je l'ai dit, à l'égard du fait religieux, même si ceux-ci doivent se passer tout à fait en dehors de la sphère sociale, et l'enfant doit être protégé de ce que d'aucuns appellent un viol. Et là, nouvelle citation. L'école, si elle ne prétend pas froisser aucune foi religieuse, elle a pour devoir strict de veiller à ce que l'enfant ne puisse à son tour être violenté par des affirmations que son ignorance ne lui permet point de contrôler ni d'accepter librement. Et l'idée de la commune, comme on retrouvera globalement dans toute l'éducation nouvelle et l'éducation libertaire, c'est liberté de conscience, observation scientifique et création de l'esprit critique, de manière à ce qu'on puisse se faire une opinion sur les faits, et éventuellement, puisqu'on a une opinion sur les faits, les faire quelque peu évoluer. Donc, principes scientifiques qui sont très largement proposés et nous disent toujours une commission du 20e arrondissement, c'est que les principes scientifiques seront enseignés sans aucune concession hypocrite faite à des dogmes que la raison condamne et que la science répudie. Donc, une logique un peu scientiste, faudrait qu'on y revienne, parce qu'aujourd'hui, on sait que la science n'est pas forcément que du progrès, mais c'est vrai qu'à l'époque, dans la tête d'un certain nombre de communards, voire de socialistes au sens très large, progrès et science sont intimement liés. Aujourd'hui, il faut peut-être prendre un peu de recul sur cette dimension-là, mais telles étaient les choses en l'état. Pareil, je vais vite parce que je sens que ça va pousser. Dans le deuxième arrondissement, ils disent la même chose. Des projets et des réalisations, et je vous disais que les projets et les réalisations, elles avaient été très largement portées par les comités d'arrondissement, et on va voir que multiples choses ont été développées par les uns ou les autres. Alors, dans le 11e arrondissement, qui était un quartier important, les dernières barricades auront lieu dans cette zone parisienne, et bien, dans le 11e arrondissement, on dit très rapidement que 12 000 élèves pauvres ont été scolarisés et que la laïcisation est complètement terminée. Vous avez vu, j'ai échoué sur déconfessionnalisation, mais laïcisation, premier coup. C'est bon quand même. Voilà, le 28 avril, dans le 3e arrondissement, et là aussi c'est une mesure tout à fait intéressante compte tenu du prix des ouvrages à l'époque et encore aujourd'hui, dans le 3e arrondissement, les parents sont informés que les élèves, au nombre de 3 000, qui fréquentent les écoles de la commune, eh bien, sont informés qu'à l'avenir, toutes les fournitures nécessaires à l'instruction seront données gratuitement par les instituteurs qui les recevront de la mairie. Donc, gratuité de l'école et gratuité des fournitures. Dans le 9e arrondissement, on inaugure une école laïque, tandis que dans le 8e arrondissement, sous l'impulsion d'Alix. Alors, Alix, il est intéressant parce qu'il est très actif durant la Commune de Paris, mais c'est un de ceux qui avait essayé de mettre en place la commune du Creusot, hein, et qu'on retrouve à Paris, puisqu'il a dû fuir le Creusot face à la répression, et donc il sera actif sur ces questions d'éducation. Et donc, il considère qu'il est important. Et là, qu'est-ce que va faire Alix? Qu'est-ce qu'il va proposer? Il va proposer l'ouverture de 3 cantines scolaires pour les enfants nécessiteux. Et par exemple, on sait aujourd'hui que dans certains quartiers d'Île-de-France, par exemple, pour que les enfants puissent commencer à apprendre le matin, on va leur servir un petit déjeuner. Hein, donc, pour apprendre, il faut du confort, et pour avoir du confort, il faut avoir un minimum mangé. Voilà. Dans la Société des Amis de l'Enseignement, autre lieu où s'activent un certain nombre de femmes, en l'occurrence, une Marie Verdir et une Élie Ducoudray, et donc on n'est plus dans l'enseignement primaire, elles vont proposer à la Commission Vaillant un projet de création et d'organisation de crèches. Et ce qui est intéressant dans ces organisations de crèches, à la fois elles vont reprendre un petit peu ce que Victor Considérant donnait ou disait dans son texte déjà évoqué, mais il ne s'agit pas simplement de garde d'enfants, il est bien évoqué qu'il s'agit d'un accueil éducatif des tout-petits, de manière à favoriser son éveil, de lui prodiguer de la sécurité et un certain nombre de soins. Voilà, donc on n'est pas simplement dans la garde d'enfants, mais on sait que dès le plus jeune âge, et l'école maternelle en France et les crèches le prouvent par rapport à d'autres pays, sont des lieux d'éveil tout à fait importants, à la fois pour l'accès à la culture et puis pour tous les phénomènes de socialisation entre enfants qui préfigureront peut-être des modalités de socialisation ultérieure. Voilà. Dans le 3e arrondissement, toujours poussé par un communard un peu moins connu qui s'appelle Bibal, eh bien, lui va proposer, et là encore, on va retrouver une préoccupation qu'on aura ultérieurement parmi les libertaires en particulier. Eh bien, Bibal va proposer qu'on mette en place, pour les enfants de gardes nationaux morts au combat, qu'on mette en place un orphelinat. Et l'intérêt de l'orphelinat de Bibal, c'est que non seulement c'est pour accueillir les enfants des combattants décédés, mais il souhaite mélanger les enfants orphelins avec des enfants qui ne le sont pas encore, de manière à ne pas les ghettoiser. Et peut-être que dans cette préfiguration de cet orphelinat que propose Bibal, on peut retrouver ce que Madeleine Vernet, que vous connaissez probablement, fera ultérieurement, puisqu'elle mettra en place un orphelinat pour les enfants de prolétaires dont les parents sont morts dans des accidents de travail, hein, qu'elle développera à Neuilly-Plaisance et à Épône, justement, pour que les enfants du prolétariat ne soient pas récupérés ou enseignés dans les orphelinats cléricaux qui ont été remis en place après 1870 et où l'aliénation religieuse battait son plein, si je puis dire. Voilà. Toujours dans les préoccupations des quartiers, comme on dit aujourd'hui, droit à l'éducation, ça va sans dire, eh bien, cette éducation va avoir là aussi des effets tout à fait intéressants parce qu'il va falloir, comme le proposeront là encore ultérieurement deux femmes anarchistes, Madeleine Vernet que j'ai évoquée et Anna Mahé que vous connaissez peut-être, eh bien, L'éducation des enfants repose très largement sur l'éducation des mères. Et donc Anna et puis Madeleine l'avaient montré. Et on retrouve cette même préoccupation durant la Commune de Paris autour d'un article dans un journal, c'est Le Père Duchesne. Alors ce n'est pas le Père Duchesne des années 1890, c'est le Père Duchesne deuxième époque, celui de la Commune de Paris, avant le Père Pénard Pouget un petit peu plus tard encore. Et donc, ce que dit le Père Duchesne, alors avec les termes du moment, donc ce n'est pas forcément un féministe radical, mais il dit « Si vous saviez, citoyens, combien la révolution dépend des femmes, c'est alors que vous ouvririez l'œil sur l'éducation des filles. Parce que vous savez, patriotes, c'est sur les genoux des citoyennes que nous bégayons nos premières paroles, que nous recueillons nos premières idées et que nous ouvrons les yeux à notre première pensée. » Donc l'idée, plus les femmes seront libérées, plus les femmes seront émancipées. Même si elles ont encore la charge des enfants, il est probable que les idées qu'elles véhiculeront auprès de leurs enfants ou des enfants qu'elles gardent permettront plus facilement l'éveil émancipateur des enfants que quand les femmes ne sont pas, à l'époque, totalement éduquées, voire laissées un peu en marge de la société, malgré les communardes, comme le disait Hélène tout à l'heure.
7 minutes,
c'est terrible ça. Ça fait rien, je reviendrai l'année prochaine. Pour les 200 ans de la Commune de Paris.
Voilà,
j'ai un peu, je vais me donner de la marge. Voilà. D'autres choses qui ont été mises en place, qui étaient tout à fait importantes, c'est l'éducation des filles. Ce n'était pas seulement une préoccupation en disant « il faut éduquer les filles », c'est qu'il y a un certain nombre de déclarations sur lesquelles je vais passer, où effectivement, il est tout à fait important que les filles soient éduquées. Et autre volet de la réflexion, voire de la mise en œuvre des premières propositions des communards sur la question de l'éducation, c'est l'éducation professionnelle. L'éducation professionnelle avait quasiment disparu de ce pays depuis 1791. Un peu de formation sur le tas, mais qui n'était pas très formalisée, puisqu'en 1791, il y a deux textes absolument abominables qui sont publiés. C'est le décret d'Allard et la loi Le Chapelier. Les décrets d'Allard et loi Le Chapelier interdisent les coalitions ouvrières pour éviter les grèves et les revendications et suppriment les corporations. Et jusque 1791, c'est dans les corporations qu'on devenait un homme ou une femme de métier. En cassant les corporations, on crée l'appareil professionnel qui ne se reconstituera de manière très formelle qu'en 1924 autour de la loi Astier. Donc vous voyez, on a eu tout un moment où on se formait comme on peut et ça évitait peut-être aussi aux ouvriers d'être particulièrement compétents et donc plus facilement malléables, mais c'est une autre affaire. Voilà, donc des écoles de filles s'ouvrent, les écoles professionnelles se mettent en place et au-delà de cette question de l'éducation des enfants, d'autres initiatives vont être prises en direction de l'éducation des adultes. Voilà. Et donc, exemple, la Sorbonne, nous dit de Manger, au lieu d'accueillir les seuls étudiants inscrits sur ces registres, ouvrit ses portes aux conférenciers de l'association philotechnique fondée en 1848 par le mathématicien saint-simonien et probablement franc-maçon, mais ça, c'est pas de Manger qui le dit, c'est moi, Eugène Lyonnais. Voilà. Sachant que l'association philotechnique existe toujours et que dans certaines banlieues, l'association philotechnique donne toujours des cours gratuits aux adultes. Donc une vieille histoire de l'éducation des adultes. Voilà. Au-delà de ça, dans le 13e arrondissement, eh bien, on va fonder une bibliothèque. Ça sera un mouvement extrêmement important ultérieurement, où on va mettre en place des soirées de lecture, parce que tout le monde n'est pas encore complètement alphabétisé, et des conférences populaires, comme celle d'aujourd'hui, par exemple. Voilà. Et plus étonnant encore, le délégué à la Sûreté nationale, c'est pas rien quand même, eh bien ce délégué à la Sûreté nationale, qui veille au grain durant la Commune, va considérer que les théâtres constituent un moyen d'éducation populaire et va permettre la réouverture des théâtres durant la Commune de Paris, sachant que les anarchistes et d'autres s'empareront du théâtre pour faire de la gîte propre ultérieurement à Amiens, à Paris ou à Lyon dans le cadre des bourses du travail, considérant, comme pour le cinéma avec la coopérative du peuple dont on a vu le film ce matin, que les moyens élaborés peut-être quelquefois par le monde bourgeois en termes de culture pouvaient être réutilisés et réalimentés pour en faire des outils d'émancipation. Éducation populaire, toujours. Alors, c'est sans doute, mais ça je passe, issu des lois de 1868, entre autres choses, quand le Second Empire redonne la possibilité de réorganiser des réunions publiques. Et dans ces réunions publiques, on trouve des gens qui sont des communards qu'on a évoqués. André Léo, Le Français, qui d'autre encore ? Varlin, Les Cigarailles, tous ces gens-là sont déjà en 68 en train de se former et de former les gens dans ces conférences qui ont lieu à Belleville, qui ont lieu dans tout le 20e arrondissement et ailleurs, et où il y avait 2 à 3 000 personnes par soirée. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'ampleur de ce besoin de se cultiver quand on était des adultes qui tentaient éventuellement de se développer. Et au-delà de ça, toujours dans le cadre de l'éducation populaire, et je crois que c'est de manger, mais je retrouverai, si je me trompe, je vous rougerai, dit « Dans la journée, on était sous les armes, et le soir, on se cultivait dans les clubs, où on pérorait dans les clubs. Hein. » Donc les journées étaient extrêmement lourdes. Et donc, les communards, comme ça s'était fait durant la Grande Révolution, celle de 89, vont envahir les églises. Ils laisseront d'ailleurs le culte se faire dans la journée. Et donc, ils vont créer un centre de clubs. Et dans ces clubs, on va discuter de la révolution sociale qui est en cours. Et donc, un peu partout dans Paris, on va investir les églises. On va les appeler clubs. On va supprimer le mot saint quand même, parce que ça ne fait pas terrible. Et donc, on va avoir le club Jacques du Haut-le-Pas à la place du club Saint-Jacques du Haut-le-Pas. On va avoir le club Christophe à la place de Saint-Christophe à la Villette, le club Eustache et le club Séverin, où tout le monde discute et pérore. Voilà.
2 minutes.
2 minutes, voilà. Les femmes, c'est 3 minutes, je parle des femmes.
On a déjà donné.
Voilà, parce que à la fois, il y a ces clubs qui sont mixtes, mais les femmes vont s'emparer, elles aussi, d'un certain nombre de lieux où elles vont discuter entre femmes sur ces questions d'éducation. Et là encore, elles vont prendre Notre-Dame de la Croix, Saint-Lambert, à Vaugirard et à la Trinité. Alors, en matière de pédagogie, pas grand-chose, je vous le disais, je vais aller très très vite. Et simplement peut-être, et je pense que Paul Chauvet a complètement pointé les choses, il nous dit, Paul Chauvet, donc instituteur qui écrit dans La Rue, « L'organisation scolaire ancienne disparaissait, mais la pédagogie restait la même. À brève échéance, le décalage entre le contenu et la manière de le transmettre aurait introduit des difficultés. » Mais il est possible qu'entre-temps, les pédagogues se seraient repris et, à la révolution des structures, aurait succédé la réforme des techniques. Ce que pointe Paul Chauvet, c'est que l'enseignement, en France, toujours aujourd'hui d'ailleurs, est extrêmement magistral. Il y a le maître dans sa classe qui est seul supposé détenir le savoir et qui reproduit le système hiérarchique. Le maître sait, les autres appliquent. Voilà. Et Paul Chauvet remarque que la Commune avait commencé à réfléchir à ces choses-là. Et que si cette révolution pédagogique n'avait pas eu lieu ou n'aurait pas eu lieu après, eh bien, il n'y aurait pas eu de révolution communarde qui aurait pu se prolonger dans la mesure où la structure éducative aurait reproduit, contre son gré, la structure autoritaire des sociétés qu'elle venait de balayer. Hein, donc une réflexion tout à fait intéressante sur cette question. Enfin, pour presque conclure, ma première conclusion, c'est que, au-delà de l'enseignement professionnel, ce que revendiquent les communards, et là ils sont appuyés très largement par les militants de l'AIT, c'est non seulement une école laïque gratuite et adogmatique, mais aussi une éducation intégrale. Et je vous avais promis que je le définirais. Voilà, donc ça nous arrive de Fourier, c'est passé par Proudhon. L'éducation intégrale, on la retrouvera chez Sébastien Faure et chez Paul Robin, c'est de dire il ne faut pas former de main sans cerveau et de cerveau sans la main. À la fois pour que les ouvriers puissent être des producteurs de richesses, mais aussi qu'ils puissent, le soir, écrire des livres et éventuellement prendre la parole dans les réunions publiques. Voilà. Et l'idée de Paul Chauvet et l'idée d'un certain nombre d'entre nous, c'est de dire, s'il y a les intellectuels d'un côté, les manuels de l'autre, et Bakounine le dit très bien ultérieurement, il est possible que la classe ouvrière soit à nouveau dominée par la classe des intellectuels. Donc il faut que chacun d'entre nous soit à la fois un intellectuel ou une intellectuelle et un producteur de richesse, un prolétaire à l'époque ou un artisan. Et ça, c'est tout à fait essentiel, me semble-t-il, encore aujourd'hui dans la société où nous sommes. Hop. Alors, je peux vous faire une grande belle citation pour la fin ?
Alors, elle est trop longue, celle-là.
Trop longue, celle-là. Voilà. Alors, Alors, méthode expérimentale et scientifique, je vous l'ai déjà dit. On va retrouver ça chez Ferrer, je vous l'ai dit. Conclusion. Ça va ? Pour conclure, j'ai pas le choix de toute façon. Puis comme j'ai été un peu le gardien du temps aussi, je peux pas me permettre. Voilà. Donc, l'école portée par les communards est à l'évidence un projet émancipateur et politique. Sachant que moi, je considère que toute pédagogie est politique, parce que dès que vous mettez en place un système d'éducation, c'est que vous avez quelque part un projet d'aider les gens à devenir ceci ou à ne pas devenir cela, un projet émancipateur ou un projet aliénateur. Donc il n'y a pas de pédagogie sans idéologie et sans politique, au LAP comme ailleurs. Et donc, les communeux du comité central électoral, républicain, démocrate, je passe parce que c'est trop long, voilà, du 11e arrondissement, je vous le dis quand même, nous disaient donc que l'éducation doit être sociale et non pas seulement destinée à acquérir des connaissances. Donc dans l'éducation, il y a la dimension apprentissage, mais il y a aussi, comme le montrera ultérieurement, très brillamment, James Guillaume, dans l'éducation, et l'éducation coopérative ou autogestionnaire, le début d'une société coopérative et autogestionnaire. Si les enfants apprennent la coopération et l'autogestion à l'école, il est probable qu'ils réclameront l'autogestion et la coopération dans les lieux de travail et dans les lieux sociaux. Donc, il y a des formes de modélisation là aussi, même chez ceux qui pensent une éducation libre. Voilà. Et pour finir, deuxième conclusion, autre chose qui est tout à fait essentielle, c'est que l'éducation ne doit pas satisfaire la seule dimension utilitariste, donc préparer le prolétaire à être un producteur. Et ce que nous disent les militants du 4e arrondissement, où siégeait Gustave Lefrançais quand même, eh bien, que seule l'éducation rend l'enfant devenu homme, réellement responsable de ses actes envers ses semblables. Et d'autres ajoutent, autour du père Duchesne, eh bien, qu'il faut réorganiser l'éducation, à la fois pour que les gens puissent développer leurs projets dans la vie sociale, dans la vie personnelle, dans la vie civile et sur l'ensemble de la sphère de la société. Donc on ne s'éduque pas simplement pour passer le baccalauréat, en gros, si je puis dire, ou le CAP, mais on s'éduque pour devenir des acteurs conscients de la société à venir. Donc, en bref, et je ne sais pas si je vous ai convaincu, mais tout ce que les communards ont pensé, ils l'ont hérité de 49, ils l'ont hérité des canuts de 70, ils ont tenté de le mettre en place, et les éducateurs libertaires ont très largement hérité des principes et des propos de la commune en matière de projet d'éducation.
Maintenant, passer à la partie question.
Et je suis très frustré parce qu'il m'a retiré des belles citations.
Pardon, excusez-moi.
J'avais une citation du Vengeur, je vous dis pas.
Alors, vous avez la possibilité de lui poser la question, mais quelle était la citation ? Ah ouais. Et à ce moment-là, vous allez le satisfaire, quoi.
Ouais. Ça serait gentil.
Mais quelle était la citation ? Moi, j'ai une question puis une petite référence à apporter.
Ah oui, d'accord.
En fait, je voulais parler par rapport à la question de l'éducation intégrale d'un philosophe américain qui est devenu un réparateur de moto, qui s'appelle Matthew Crawford.
Oui, tout à fait, oui.
Vous connaissez l'éloge du carburateur, qui est un vrai petit bonheur. Et par contre, j'ai une question qui m'intéresse un peu particulièrement, c'est le rapport, si vous avez des éléments de référence sur les relations entre l'éducation intégrale, là, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui vient de Fourier, et le luxe communal. Parce que le luxe communal qui est déclaré par Potier le jour de la déclaration de la Fédération des artistes est très très lié à ça, mais pour les artistes. Et ce qui m'intéresse, c'est le lien entre les deux que j'arrive toujours pas à faire.
Le lien, je pense que Gilles Bounour, qui ne sera pas là tout à l'heure, aurait pu très largement le faire. Donc sa contribution est dans des actes magnifiques, comme vous a montré tout à l'heure. Effectivement, c'est la même démarche, c'est-à-dire que l'éducation est pour tous, comme le luxe est pour tous. C'est-à-dire que tout le monde doit pouvoir devenir un orfèvre dans son métier, voire quelqu'un en mesure de fonctionner dans de la créativité. Et il considère aussi, Courbet, et les gens qui travaillent avec lui, qu'il ne faut pas faire de différence entre l'artisan orfèvre ou l'artisan imprimeur et Courbet, peintre reconnu, plus ou moins d'ailleurs, par l'Académie. C'est-à-dire un refus de stratification de classe entre les artistes d'un côté et les artisans de l'autre. Attends.
Il n'y a pas de micro là. Non. Est-ce que vous voulez qu'on vous redonne la parole ? Oui, attendez, j'arrive.
Parce que vous savez, on a des auditeurs, ils ont du mal à. Attendez.
Pas, oui, merci. Pas de blanc sur Radio Libertaire, merci.
Je vais simplement savoir si vous avez des références, parce que Potier n'a rien dit là-dessus.
Voilà.
Potier n'a jamais défini le luxe communal. Est-ce qu'il y a eu des écrits à l'époque de la Commune là-dessus? Et ça, je n'ai pas trouvé.
Moi, je vous engage à lire la contribution de Gilles Bounour. Hein. Bon, ben, éventuellement, je vous donnerai le courriel de Gilles Bounour. Mais je ne suis pas suffisamment pointu sur ces questions pour répondre.
Voilà, nous allons passer à une autre question maintenant.
Quelle est la citation du Vengeur?
C'est vrai? Vous la voulez? Alors, le Vengeur, 8 avril 1871, il va exprimer clairement cette volonté collective de mettre en place ce qu'on appellera plus tard la pédagogie du travail, voire de l'alternance. Voilà. Pour Bélanger, donc, le rédacteur de cet article dans Le Vengeur du 8 avril, il écrit « Il faut que l'éducation soit professionnelle et intégrale. Il faut que les jeunes générations nées ou à naître soit, à mesure de leur éclosion, intelligemment guidée, dès 1880, comme quoi, vous voyez, on se projette dans cette commune qui n'a duré que 100 jours, il faut que les hommes, dès 1880, sachent produire d'abord, parler ensuite et écrire. Il faut que, dès son jeune âge, l'enfant passe alternativement de l'école à l'atelier, là on retrouve Proudhon aussi, afin qu'il puisse de bonne heure gagner sa vie, en même temps qu'il développera son esprit par l'étude et la pensée. Il faut qu'un manieur d'outils puisse écrire et lire un livre, sans pour cela se croire obligé d'abandonner l'étau ou l'établi. Il faut que l'artisan se délasse de son travail journalier par la culture des arts, des lettres ou des sciences, sans cesser pour cela d'être un producteur. Et je pense qu'on retrouve une des grandes idées du syndicalisme révolutionnaire en particulier, c'est le refus de parvenir. C'est pas parce que je deviens un prolétaire cultivé que je veux devenir un dominant du prolétariat. Et je reste parmi les miens pour éventuellement participer à l'émancipation collective. Donc c'est, à mon avis, un peu en filigrane dans la citation du Vengeur.
Voilà, nous passons à une autre question.
Question pratique. Est-ce qu'on peut retrouver tous vos propos quelque part?
Alors,
il y aura une deuxième question par la suite, dans les actes du colloque qui sont présentés par Hugues.
Voilà, ça par rapport à la commune, mais vous verrez qu'il y a un certain nombre d'ouvrages qui sont sur la table de Publico, où mon nom apparaît, comme par hasard, où je développe d'autres idées sur l'éducation qui sont en lien avec la pédagogie libertaire en règle générale, donc héritière de la commune.
Voilà la deuxième question.
Et par rapport à Jules Vallès, en fait, vous en avez parlé brièvement sur le fait qu'il avait œuvré pour militer pour une éducation, entre guillemets, plus progressiste. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement dans ce sens?
Rien. Rien. À part écrire sa trilogie où, effectivement, il décrit, par exemple, son éducation première comme une vraie souffrance, la souffrance pédagogique, ça existait. Voilà. Non, Jules Vallès était plus sur son journal et des choses comme ça que de mettre en œuvre ce genre de choses. Par contre, il laissait ses colonnes ouvertes, effectivement, à la réflexion des éducateurs qu'il publiait régulièrement.
Et je rebondis sur la question qui a été posée pour savoir s'il serait possible de retrouver tes propos comme tous ceux qui ont été tenus ici aujourd'hui et demain. Ce sera sur le site de Radio Libertaire. Vous cherchez le site de Radio Libertaire, vous faites événements spéciaux et vous aurez pour l'éternité, ou presque, les interventions qui auront été enregistrées ici et qui sont diffusées en direct actuellement.
Voilà, nous passons à une autre question.
Quand vous avez parlé de l'éducation obligatoire, vous avez dit que c'était une obligation au niveau social et pas au niveau individuel. Je voulais savoir si vous pouviez revenir là-dessus pour bien expliquer la différence entre cette obligation au niveau individuel et au niveau social.
Oui, alors là, il s'agit plutôt d'une interprétation de ma part que de choses qu'on peut trouver très élaborées dans les textes. L'idée, c'est de dire, de toute façon, beaucoup de gens souhaitent que l'école soit accessible à leurs enfants. Voilà. Et donc, l'obligation est plutôt une obligation qui est faite à la société de mettre en place des structures scolaires, une obligation morale qui est faite en direction des parents pour qu'ils permettent à leurs enfants d'aller à l'école, plutôt simplement que d'obliger l'enfant à être présent dans les écoles. C'est comme ça que moi je l'entends, et ça me paraît bien plus libertaire que simplement de dire « toi petit, tu vas à l'école, content ou pas content, c'est comme ça et pas autrement ». Et c'est l'école qui, au contraire, met au service de l'enfance l'ensemble des structures qui vont lui permettre d'accéder au savoir.
Voilà, nous passons maintenant à une autre question.
interrompre.
Oui, d'abord une petite anecdote. Je voudrais signaler que, historiquement, enfin, à l'origine, ces locaux, c'était les locaux du collège de l'Immaculée Conception. Et vous voyez, dans l'aile à côté encore, les tyrans, ce sont des croix. Il y avait la chapelle du collège. 500 élèves, hein, c'était immense, il y avait des bouts. Avant que nous arrivions ici, puisque j'étais là, c'était la main d'œuvre étrangère qui était installée ici. Bon, cela dit, ma question, c'est est-ce qu'il y avait une influence avant sur les communards par d'autres personnes, personnalités? Je pense par exemple à la cousine germaine des reclus, Élisée Reclus et les autres, Madame Kergomar, qui refusait d'ailleurs l'instruction, qui avait milité et réussi d'ailleurs à instituer des écoles maternelles en France. Mmh. Mais elle refusait l'instruction, par exemple.
Oui, mais je pense qu'il y a eu un débat dans le mouvement ouvrier entre instruction et éducation. L'instruction étant souvent perçue comme des parcours obligatoires. On vous instruit comme la République l'a souhaité pour que vous soyez un petit républicain. Et l'éducation, au contraire, c'est vous accéder à un certain nombre d'éléments de savoir de manière à pouvoir vous construire. C'est toute la différence, si vous voulez, entre l'école laïque et gratuite de Jules Ferry, qui rappelle d'ailleurs dans un de ses textes que si on met en place l'école laïque gratuite et obligatoire en 1880, c'est pour en finir avec le temps des révolutions. Quand il y a d'autres pédagogues qui sont là aussi issus du XVIIIe siècle déjà, et qu'on va retrouver dans les textes de Reclus, qu'on va retrouver dans les textes de Faure et d'autres, eh bien l'idée de Pestalozzi, donc un disciple de Rousseau, c'est que l'éducation doit permettre de faire œuvre de soi-même. Et je pense que c'est ça l'éducation, permettre à chacun de faire œuvre de soi-même et pas être l'œuvre de la République, l'œuvre des systèmes de domination.